Vous écoutez France Culture.
On vous retrouve dimanche prochain. Aujourd'hui, tout un monde part à la rencontre du bouddhisme dit engagé à travers un reportage d'Alain de Valpo en Thaïlande et avec les témoignages notamment de Sulak Sivaraksa, une grande figure de ce bouddhisme engagé. Notre invité en plateau est Raphaël Liogier, sociologue, directeur de l'Observatoire du religieux, auteur de « Le bouddhisme mondialisé » aux éditions Ellipse. Tout un monde, Marie-Hélène Freissel. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Ça se passait en septembre dernier. Les moines bouddhistes de Birmanie ont retourné leur bol en signe de refus de l'obol des militaires. Quelque chose a changé alors dans la distribution habituelle des rôles. Il s'agissait là d'un acte de désobéissance par rapport à la règle, un geste qui rattachait soudain ses bonds à un vaste mouvement, informel et pourtant bien perceptible à l'échelle internationale, celui du bouddhisme engagé, un bouddhisme qui ne remet pas en cause l'effort personnel d'échapper à la souffrance, mais qui ne se limite pas à cela, qui entre dans le champ du social et du politique et qui refuse l'entente tacite avec les pouvoirs en place. Le bouddhisme engagé, ou quand la compassion descend dans la rue, retour donc sur ce vaste courant qui grossit de plus en plus depuis que le terme même de bouddhisme engagé a été forgé par un moine vietnamien, Thich Nhat Hanh, réfugié en France après la victoire du communisme au Vietnam, engagé donc, mais bouddhiste avant tout, donc à l'écart de toute idéologie qui voudrait se prendre pour la vérité.
La parabole de l'éléphant, c'est à propos de la relativité de la vérité. La vérité dépend en fait de notre regard, pas seulement de l'objet. Alors, le Bouddha prend l'exemple de l'éléphant. Il dit, si vous demandez à des aveugles la connaissance qu'ils ont de l'éléphant, la seule façon pour eux de connaître l'éléphant, ça va être de le palper. Et alors, celui qui va palper la jambe, la patte d'un éléphant, va dire, voilà, c'est une colonne. Celui qui va palper l'oreille va dire c'est un éventail. Et celui qui va palper la queue va dire autre chose. Et donc chacun va avoir son idée sur l'éléphant qui ne correspond pas du tout à l'éléphant. Et alors le Bouddha se sert de ça pour généraliser à la perception que nous avons du monde, des autres, des choses, de la vie, pour dire que certes nous avons une perception, mais Elle est comparable à celle des aveugles. Généralement, elle ne tient compte que d'un aspect des choses. Si on étudie le bouddhisme, il faut se demander qu'est-ce que je regarde, un peu comme les éléphants. Donc si vous ne regardez que la patte, par exemple le bouddhisme politique, c'est possible. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un aspect de l'ensemble du bouddhisme.
La fameuse parabole donc interprétée par Louis Gabaud. Il vit à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, et il va être notre guide tout à l'heure pour partir à la rencontre de ces bouddhistes thaïlandais engagés sur le terrain social, sanitaire et même dans la défense de l'environnement. Il s'agit là de l'un des courants les plus intéressants de ce bouddhisme mondialisé que vous abordez, Raphaël Liogier, dans cet énorme ouvrage qui s'appelle « Le bouddhisme mondialisé ». Une perspective sociologique sur la globalisation du religieux. Donc vous visez encore plus large, vous visez l'ensemble du bouddhisme à la surface de la planète, 400 millions de personnes à peu près.
Alors, c'est très difficile de faire une évaluation du nombre de bouddhistes pour toute une série de raisons. D'abord parce que aujourd'hui il y a un intérêt croissant pour le bouddhisme, mais cet intérêt peut se caractériser par le fait d'être seulement, d'assister seulement à une conférence ici ou là. On peut se manifester par un véritable engagement, par l'adhésion à une association. Enfin, les adhésions sont tellement multiples que c'est très difficile d'évaluer le nombre exact. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'en Extrême-Orient, les identités religieuses ne sont pas, comme dans nos monothéismes, des identités jalouses. C'est-à-dire qu'on peut être en même temps bouddhiste et puis en même temps confucéen, en même temps être dans le culte des ancêtres d'un certain point de vue, et puis à côté de ça, pratiquer la méditation. Donc c'est très difficile d'évaluer. Mais 400 millions ne me semble pas, en tout cas, un chiffre surévalué.
À l'intérieur de ça, ce bouddhisme engagé, c'est un courant majoritaire, minoritaire, comment vous le situeriez, toujours quantitativement?
Alors, c'est un courant qui exploite, pour ainsi dire, une possibilité qui est inhérente à l'origine même du bouddhisme, puisque le bouddhisme, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, malgré ce qu'en pensent ou ce que veulent y trouver les occidentaux, ce qui fait la spécificité du bouddhisme, ce n'est pas la méditation, ça existait déjà dans l'hindouisme, ça existe un peu partout, hein, c'est l'aspect politique, l'aspect égalitariste. Alors cet aspect-là qui avait été gommé pendant des siècles pour des raisons politiques en Asie, eh bien, a ressurgi à l'aune de certaines critiques de régimes durs en particulier, mais aussi d'une critique du capitalisme. Parce que le réseau international des bouddhistes engagés s'inscrit directement dans une critique américaine, une critique du capitalisme, une critique de la société de consommation.
Alors nous voilà maintenant propulsés en Thaïlande. Alain de Valpo, vous étiez là-bas, micro en main. Bonjour.
Bonjour.
On est dans une école et on va partir donc en Thaïlande à la rencontre de ces courants engagés dans un pays à la fois très intéressant, on va s'en rendre compte, parce qu'il y a un certain nombre de grandes figures, mais un pays dans lequel justement cet engagement sur le terrain social est malgré tout extrêmement minoritaire. Par rapport à des bonzes et à une structure bouddhiste qui est très inféodée à l'État.
Oui, le bouddhisme en Thaïlande est très lié avec le pouvoir. Et l'État en Thaïlande, c'est le roi qui est une figure omniprésente dans la vie quotidienne. On voit son portrait partout. Et effectivement, le roi est le protecteur du monde bouddhiste. Et donc la relation entre les deux, entre le clergé bouddhiste et la royauté, est très prégnante.
Alors il n'en est pas moins vrai qu'il y a une frange du bouddhisme en Thaïlande qui est particulièrement intéressante et très engagée. On commence par l'aspect d'enseignement. Là, on se trouve dans une école.
Alors on ne se trouve pas dans une école, on se trouve donc dans le nord de la Thaïlande, très près de la Birmanie. Au loin on voit les montagnes et c'est la frontière naturelle qui sépare la Thaïlande de la Birmanie. C'est plus précisément l'état Shan en Birmanie. Il y a de nombreuses ethnies en Birmanie qui sont souvent en rébellion vis-à-vis de la junte, et pour certaines raisons, de nombreux Shan ou Karen ou d'autres ethnies ont trouvé refuge du côté thaïlandais. Là, leur situation est assez difficile car ils sont à la fois tolérés mais non reconnus. Et dans le cas des Shan, les parents par exemple peuvent travailler, mais les enfants en étant Shan n'ont pas accès à l'école. Et donc, dans ce cas de figure...
Ils font quoi, là, en ce moment, ces enfants?
Et bien donc, c'est une ONG qui les a pris en charge. Et comme il n'y avait pas de locaux, pour faire classe, ils se sont installés dans un temple bouddhiste.
Alors, vous allez à leur rencontre avec Louis Yabaud, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un Français qui vit depuis très longtemps à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. Il est chercheur à l'école française d'Extrême-Orient. Il est très enraciné en Thaïlande. Je crois qu'il a une épouse thaïlandaise.
Il a une épouse thaïlandaise, il vit en Thaïlande depuis les années 70. Et il y a un fonds documentaire sur l'histoire du bouddhisme en Thaïlande unique au monde. Et c'est un amoureux du bouddhisme, un amoureux de la Thaïlande. Et il en parle très bien. Là, c'est l'heure du déjeuner. Le temple peut faire aussi office de cantine.
Ah oui, oui, ça c'est normal. Je veux dire, vous avez dans les sanctuaires thaï d'aujourd'hui, ou les sanctuaires d'Asie du Sud-Est, vous retrouvez l'ambiance qu'il devait y avoir dans nos cathédrales au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la cathédrale, ou ici le sanctuaire, C'est pas un lieu de culte où tout le monde se tait et personne ne parle. Non. C'est un lieu de vie. On peut y dormir, on peut y manger, on peut venir y discuter. Et là, donc, c'est un cas où le bâtiment principal du monastère sert de classe et de cantine à midi. C'est tout à fait normal. Avant l'arrivée de la culture européenne à la fin du XIXe siècle, le monastère était vraiment le centre de la vie culturelle. C'était souvent le seul bâtiment en dur dans un village, ou en tout cas en bois solide. Et c'est souvent là que se passaient les réunions des représentants des villageois. C'était le seul endroit où on pouvait apprendre à lire et à écrire. Ce qui a un peu changé, c'est avec l'arrivée de la culture occidentale et de l'enseignement à l'occidental. En fait, aujourd'hui, vous avez un réseau d'écoles parallèles à celui des monastères. Et c'est parfois assez mal vécu par certains moines, certains bonzes.
Peut-on dire qu'au cours du XXe siècle, le bouddhisme a perdu de l'influence politique, mais reste dans la vie quotidienne quelque chose de prédominant ?
Oui, dans la vie quotidienne des campagnes, au moins. Et on ne peut pas dire qu'il a perdu une influence politique, il a gardé une influence politique, parce que vous savez que dans ces pays, même si officiellement il y a le suffrage universel, où chaque voix, une voix compte, une voix en principe est unique, une voix peut être différente de celle du voisin, mais en pratique, en fait, souvent, le vote, c'est une décision collective ou quasi-collective du village. Donc, c'est-à-dire que si une autorité politique ou du village, le chef de village, ou si une autorité morale, comme le supérieur du monastère, conseille de voter pour tel candidat, bien, presque tout le monde, comme un seul homme, va voter pour le candidat qui va être défini par l'autorité administrative locale ou religieuse locale. Donc par ce moyen-là, les bonzes gardent encore un certain pouvoir politique.
Face à un bouddhisme très institutionnalisé en Thaïlande, donc, existence d'autres courants, Alain de Valpeau.
Oui, alors Louis Gabaud a produit de nombreux écrits, toujours très érudits et avec toujours un style très fleuri. Et pour évoquer les précurseurs du bouddhisme engagé, Louis Gabaud évoque les maîtres du soupçon. Donc je lui demande, qui nomme-t-il maître du soupçon ?
Ce sont des moines ou des autorités laïques qui ont commencé à jeter un certain soupçon sur certains aspects du bouddhisme qui étaient considérés comme sacrés et intouchables. Alors, par exemple, vous avez un moine, Bouddha Dasabhikkhu, qui a redit à sa manière ce qu'il avait lu dans des livres occidentaux, à savoir qu'on ne pouvait pas prendre comme argent comptant tout ce qui était écrit dans le canon. Par exemple, le canon bouddhique se divise en trois sortes d'écrits. Eh bien, il a dit que la dernière partie de ce canon bouddhique, qui s'appelle l'Abhidharma Pitaka, eh bien, cette partie n'était pas nécessaire pour comprendre le message du Bouddha, et qu'à la limite, on pouvait la mettre à la mer, et que personne n'y perdrait quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons une autre image du monde. Nous vivons dans un monde où nous n'avons plus besoin de divinité pour expliquer ce qui se passe dans le monde. Eh bien, il en a tiré les conséquences. En enseignant un bouddhisme qui est tout à fait moderne, entre guillemets, et qui se passe de tout ce cinéma de divinité, d'esprit, de conditionnement spirituel, spirituel entre guillemets, pour tout ce qui conditionne, tout ce qui fait notre vie. Et lui, il n'en a pas besoin. Il se place simplement sur le plan psychologique, qui est, à son avis, le seul plan où le Bouddha voulait enseigner quelque chose.
C'est un bouddhisme qui se permet aussi de prendre des prises de position politiques.
Oui, c'est néo-bouddhiste. Parfois, ils prennent des positions politiques dans le sens où ce sont des positions politiques d'opposition au pouvoir en place. Parce qu'elles estiment, par exemple, que quand le pouvoir en place, quand les autorités en place cautionnent quelque chose qui, à leur avis, n'est pas bouddhiste, par exemple une armée, une armée. Normalement, le bouddhisme étant un mouvement pacifiste qui claironne qu'on ne peut pas faire de mal à aucun être vivant, si vous avez une armée, bien normalement, ce n'est pas bouddhiste. Donc si vous êtes un chef de gouvernement, un roi qui entretenait une armée, eh bien, pour certains radicaux, si vous voulez, ce n'est pas bouddhiste.
Et en Thaïlande, face à ces maîtres du soupçon, comment a réagi la société, comment a réagi le monde bouddhiste ?
Ces maîtres du soupçon, enfin le grand maître du soupçon, Bouddha Dasa Bhikkhu, il a été bien accueilli par la frange de la population qui faisait des études, et qui était plus ou moins intellectuelle. Et une partie de son enseignement aussi a été acceptée par une certaine partie de la population qui n'avait pas forcément fait d'études, parce qu'il s'exprime, il dit des choses de bon sens parfois, d'une manière pas trop technique, donc il a été accepté. Mais il a été aussi rejeté par une partie de l'élite quand il était en vie, parce que sa façon de dire, par exemple, que il y avait une façon d'être nationaliste en Thaïlande qui n'était pas bouddhiste, eh bien, ça n'était pas accepté ou acceptable pour la partie de la population, de l'élite, qui à ce moment-là était occupée dans une lutte contre le communisme. Alors que lui disait, mais le communisme, ce n'est qu'une ride dans l'histoire. Il ne faut pas se focaliser sur le communisme, il faut se focaliser sur l'inspiration profonde du Bouddha, qui est une limitation de nos désirs, une limitation de nos plaisirs, pour que ce monde continue d'être vivable. Et de ce point de vue-là, il était très moderne, puisque maintenant, tous les mouvements de conservation des ressources naturelles, de développement durable, tout cela, ça s'inscrit tout à fait dans la mouvance de ce qu'il enseignait.
Nous voici à quelques pas d'un des quartiers chauds de Bangkok. J'ai longé la Surawang Road, qui est une des grandes avenues du centre-ville de Bangkok, et nous voici au Soi Santipap. C'est une ruelle, et c'est la ruelle où habite Sulak Siravaksa. La maison. Alors effectivement, j'arrive à un croisement où se trouve une maison. Mr. Sulak Siravaksa ? Oui ? Donc c'est bien là, c'est une maison de style traditionnel, tout en bois, avec beaucoup d'arbres, un oasis de verdure.
Alors Alain de Valpo, avec vous, on va pénétrer donc dans la demeure de cet homme, Sulak Siravaksa. Je pense qu'il faut un peu peut-être camper le personnage. C'est un personnage qui a un très grand rayonnement international, Raphaël Liogier.
Oui, Sulak est pour ainsi dire le disciple le plus connu de Bouddha Dasa Bhikkhu, et c'est lui qui a permis de diffuser ses idées en les vulgarisant, je veux dire, en les vulgarisant au sens noble du terme, c'est-à-dire leur donner une efficace politique qui dépasse la Thaïlande.
Un homme très courageux qui a subi un certain nombre de persécutions.
Tout à fait, qui est vraiment, au sens propre, l'image du bouddhiste engagé, le type qui est vraiment engagé dans la cité et qui en même temps, effectivement, est laïque. C'est-à-dire c'est la face laïque du bouddhisme engagé, parce que le bouddhisme engagé, d'un côté, il y a un certain nombre d'intellectuels qui, en général, à l'origine, sont des moines, et ensuite, il y a toute une diffusion qui se fait par des laïcs, et le laïc par excellence qui a ce rayonnement, c'est Sulak.
Quand je suis allé en Angleterre, en 1953-1954, j'ai rejoint la Société bouddhiste de Londres. Monsieur Christopher Humphreyser avait fondé cette organisation 18 ans plus tôt. Et j'ai été surpris. En Angleterre, pour être bouddhiste, il suffisait de s'asseoir pour méditer. Être serein, être en paix, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on s'entraîne à devenir pacifique pour servir les autres. Et je crois que le bouddhisme occidental ne pratique qu'une partie du bouddhisme, ce qui pourrait être considéré comme de l'échappisme et non pas du bouddhisme. Heureusement, dans les années 60, un moine vietnamien, Thich Nhat Hanh, n'a pas respecté cela. Il a inventé le terme de bouddhisme social et engagé. Dans le bouddhisme social et engagé, vous vous préoccupez de la société et ce mot m'a plu. Alors je l'ai utilisé aussi pour moi. Le bouddhisme doit se préoccuper de la société, de l'environnement, des autres. C'est comme cela que je me suis impliqué dans le bouddhisme engagé, depuis mon retour d'Angleterre dans les années 60. J'étais un des fondateurs d'un réseau international de bouddhistes engagés, il y a 18 ans, 19 ans de cela. Car je trouvais que le bouddhisme de par le monde n'était pas assez impliqué dans la société. Le bouddhisme au Japon, en Chine, en Corée, dans l'Asie de l'Est, n'était qu'un rite de passage vers l'autre monde, un service funéraire. Au Sri Lanka, le bouddhisme est devenu nationalisme. Tuer les Tamouls ne posait aucun problème. Idem de tuer des hindous, des chrétiens. C'était devenu du nationalisme. Dans mon propre pays, le bouddhisme était devenu une partie du capitalisme. C'est pour cela que j'ai pensé que selon l'enseignement du Bouddha, pour être pertinent dans le monde moderne, on doit porter le message pertinent de Bouddha dans le monde actuel. Nous sommes donc très actifs. Ce n'est pas une organisation immense, mais elle est internationale. En France, nous avons très peu de membres, en Allemagne un peu plus. Au moins, nous tentons d'alerter les bouddhistes de protéger la société et de combattre pour la justice sociale de manière non violente. Nous sommes différents des marxistes, nous n'utilisons pas le chemin de la violence et nous n'essayons pas d'haïr l'oppresseur, mais de changer le système oppressif.
Soulak Sivaraksa, Bouddha a dit « Changez-vous vous-même », cela veut-il dire aussi qu'il faut changer le monde ?
Yes.
Oui, changer soi-même et changer le monde. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de séparation entre moi et le monde. Pas plus qu'entre vous et moi. Un enseignement essentiel du Bouddha est qu'il n'y a pas de dualité. Nous sommes tous interreliés. Si vous changez vous-même, vous devez changer vos proches, changer l'environnement. Vous devez servir les autres autant que possible. C'est cela l'enseignement essentiel de Bouddha. Chacun peut devenir un Bouddha. Et le Bouddha est celui qui comprend le Dhamma, c'est la loi universelle, la loi de l'univers, du monde. Et vous comprenez la loi du Dhamma quand vous avez abandonné votre égoïsme. Et pour mettre en pratique la loi, le Dhamma, il faut le Sangha. Le Sangha est la communauté des hommes et des femmes qui ont abandonné leur foyer, qui sont devenus sans domicile, pour choisir une nouvelle société qui défie la société principale. Le Sangha signifie égalité, fraternité, liberté. Et c'était 2000 ans avant la Révolution française. Et tout cela sans violence, pour se libérer de la haine et de l'illusion. C'est pourquoi si vous pratiquez le bouddhisme sérieusement, on peut parler de communisme, de socialisme, dans ce qu'ils ont de meilleur, mais pas dictatorial, pas le pouvoir du parti et tout cela. C'est ce que dit aussi le Dalai Lama.
C'était donc le témoignage de Soulak Sivaraksa, rencontré à Bangkok. C'est peut-être ce que dit le Dalai Lama, Raphaël Yogier, mais on n'a quand même pas l'impression qu'il le dise d'une manière aussi forte. Le Dalai Lama, combattre pour la justice sociale, enfin, c'est un véritable engagement, quoi, un activisme bouddhiste.
Alors déjà, il faut quand même savoir que le Dalai Lama est membre actif de l'INEB. il est membre lui-même de l'INEB, le Dalai Lama, et qu'il a participé au développement de l'INEB.
Alors INEB, c'est Réseau International des Bouddhistes Engagés.
Tout à fait.
Qui regroupe donc plusieurs courants, on peut imaginer.
Qui est un courant aussi, c'est ça aussi une nouveauté hein, par rapport aux traditions asiatiques, c'est un courant qui est traverse les écoles et qui ne sacrifie pas aux différences des identités d'école, petit véhicule, grand véhicule, ceci, cela. Donc, en particulier dans le bouddhisme tibétain, où on est très attaché à ces différences parce qu'on s'estime être au sommet de la hiérarchie des écoles, le geste du Dalai Lama d'appartenir à cette école qui replace tout le monde au même niveau est quand même un geste qui est important. Sur cette histoire de bouddhisme social, de bouddhisme engagé, dans un sens, le fait de parler de bouddhisme engagé, c'est presque une litote. Enfin, ça va de soi. C'est-à-dire que c'est l'interprétation occidentale d'un bouddhisme intimiste qui a fait changer les choses, et asiatique aussi, à un certain moment de l'histoire asiatique. Puisque, en toute hypothèse, puisque l'objectif du bouddhisme, c'est d'éliminer la souffrance. On ne peut pas éliminer la souffrance individuelle. Notre seule souffrance, ce n'est pas la souffrance d'autrui. Donc, le bouddhisme est fondamentalement politique puisqu'il vise à éliminer la souffrance générale, universelle. Et effectivement, la sangha, c'est-à-dire la communauté des moines, est considérée, même à la base du bouddhisme, comme une sorte d'avant-garde pour des individus qui ont le niveau suffisant, le niveau spirituel suffisant pour être capables d'abandonner tous leurs biens et de devenir des bhikshus, c'est-à-dire des moines mendiants qui ont abandonné tous leurs biens et qui se situent à égalité. C'est quand même, à ma connaissance, la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous avons un statut dans une communauté, qui est la communauté des moines, dans cette sangha, qui n'est plus défini par la naissance, par des différences hiérarchiques a priori. Voilà la vraie originalité du bouddhisme, même par rapport à l'hindouisme, par rapport à l'ensemble des religions du monde à l'époque. Le bouddhisme invente une institution qui aujourd'hui est beaucoup plus connue, qui s'est généralisée, le monastère. Et l'objectif ensuite, c'est de faire du monde dans son ensemble un monastère, c'est-à-dire un lieu d'égalité statutaire.
Alors cet égalitarisme, on en voit surtout les conséquences en Inde, où je crois que c'est l'endroit du monde où il y a actuellement le plus de conversions, parmi bien entendu les basses castes, les intouchables.
Bien sûr, parmi les basses castes, il est vrai, mais aussi parmi les intellectuels qui n'appartiennent pas forcément aux basses castes, mais qui veulent soutenir ce mouvement de démocratisation. C'est l'idée selon laquelle, on retrouve aussi très fortement dans le bouddhisme, et je crois que c'est une idée qui est très juste, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement un système institutionnel, formel, qui se définit par le haut. La démocratie, c'est une culture, une habitude, c'est une identité, et cette identité, elle doit s'enseigner par le bas. Du coup, ce que propose le bouddhisme, c'est au fond d'être capable de vivre la démocratie, de la vivre de l'intérieur. D'ailleurs, lorsque sur ce terme de socialisme ou de communisme, socialisme dharmique, nous disait le Dalai Lama, socialisme du dharma, il y a un débat qui est très intéressant à l'intérieur de l'INEB, c'est de dire nous sommes marxistes. Enfin, Bouddha Dasabhikwa a quand même écrit un petit bouquin qui s'appelle « Socialisme et bouddhisme ». Nous sommes marxistes, influencés par le marxisme. Il faut savoir aussi que le bouddhisme asiatique engagé s'est découvert ou redécouvert comme engagé, comme nous l'avons dit, à la lecture de Marx, à la lecture d'auteurs, justement, du soupçon d'auteurs occidentaux. Et nous sommes marxistes. Néanmoins, nous ne sommes pas pour une société où le communisme serait imposé de l'extérieur. Car s'il est imposé de l'extérieur, il engendre des dysfonctionnements. Du coup, nous sommes démocrates parce que la démocratie, c'est pour ainsi dire le niveau institutionnel minimal qui peut permettre de laisser advenir le seul communisme possible, qui est un communisme intérieur, c'est-à-dire un communisme qui se travaille spirituellement. Si vous faites une société d'égoïstes avec des institutions marxistes, eh bien ça donne l'Union soviétique.
Alors un bouddhisme donc post-marxiste, en c'est quelque ça. Sorte, d'où sa grande séduction internationale. Je me tourne à nouveau vers vous, Alain de Valpeau, parce qu'on va repartir un moment sur le terrain. Égalitarisme, donc, on vient de l'entendre, mais également très fort engagement sur les questions environnementales. Et ça va nous amener toujours dans la région de Chiang Mai, près de la frontière birmane, auprès d'une société qui justement lutte sur ce terrain de l'écologie.
une communauté qui s'est engagée dans la défense de l'environnement. Cette région du nord de la Thaïlande est aujourd'hui colonisée par de grandes plantations, notamment d'orangers. Et c'est évidemment une industrialisation de ces plantations avec l'abus d'engrais. Et cette communauté...
Je crois qu'ils sont peu nombreux. Quelques bonzes.
Au moment où on s'y rend, il y a deux bonzes, quelques laïcs et puis des villageois qui forment la communauté. Et cette communauté s'est engagée d'une part dans la lutte contre la déforestation pour la création de nouvelles plantations et aussi dans une agriculture biologique avec utilisation de moins d'engrais et une manière de travailler la terre de manière plus traditionnelle. C'est évidemment à l'encontre des intérêts de ces grands propriétaires.
Et combat dangereux, puisqu'il y a eu un mort.
Voilà.
Un moine a été tué.
Il y a quelques années, un moine a été tué. Et ce meurtre, qui n'a pas été élucidé, est sans doute lié à cet engagement pour la défense de l'environnement.
Alors on part les voir en compagnie toujours de Louis Gaboud.
L'état, c'est là, non?
Ça pourrait être ça, oui. Voilà.
Nous approchons d'un petit lac, une lagune. Il y a des bâtisses en bois, sur pilotis. On n'a pas l'impression d'arriver dans un temple classique pour l'instant.
Pas du tout.
Et là, un homme s'avance vers vous, l'un des moines de cette communauté.
Oui, nous rencontrons Fra Kittisak Kittisobano, qui est lui aussi un élève de Bouddha Dasa Bhikkhu.
En décembre, il y aura 10 ans que nous sommes ici. La fondation a été enregistrée depuis 6 ans. Actuellement, il y a 2 moines. Et il y a 3 membres laïcs de la fondation. En dehors de ça, ce sont des villageois qui travaillent pour nos programmes. Donc, on réside, on travaille et on pratique le dharma ensemble. On étudie les œuvres de Bouddha Dasa Bhikkhu. Et nous essayons de créer une communauté, de développer la qualité de la vie, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan physique.
Dans l'enseignement du Bouddha, qu'est-ce qui vous... motif, où est-il dit et comment interprétez-vous cet enseignement pour défendre l'environnement?
Si on veut se développer spirituellement, intérieurement, il faut que nous développions aussi un environnement naturel, propice, autant que nous pouvons le faire.
Afin
que nous vivions dans des conditions qui favorisent notre développement spirituel et donc notre suppression de la souffrance. D'un côté, c'est utile pour les individus, mais c'est aussi utile sur le plan social. La vie des moines dans le bouddhisme, ce n'est pas une vie qui est absolument libre ou séparée de la vie des communautés. Nous dépendons des villageois pour notre vie quotidienne. Et de notre côté, nous, par notre enseignement, nous pouvons les aider à mieux vivre leur propre vie.
À propos de l'assassinat d'un membre de votre communauté, avez-vous, vous, une idée du mobile ?
La raison, la cause, c'est la dispute à propos des ressources naturelles ici. Et une autre raison importante, c'est que sous l'ancien gouvernement, notre encouragement à ce que les villageois se suffisent ou encourager une économie de suffisance, une économie économe. Cette tendance qui était notre politique allait tout à fait à l'encontre de la politique du gouvernement. Et cela faisait que ceux qui étaient au-dessous du Premier ministre, les partisans du Premier ministre, ne nous aimaient pas du tout. La commission d'enquête qui était une commission spéciale d'enquête qui a été montée à propos de cet assassinat en a conclu que c'était là les deux raisons qui avaient conduit à l'assassinat.
Et aujourd'hui, fin 2007, il n'y a toujours aucun coupable qui a été condamné.
On ne sait toujours pas qui est à l'origine, qui est derrière, qui l'a fait. Le gouvernement n'ose pas déclarer qui est à soupçonner. À un moment, ils ont envoyé des militaires pour nous protéger. Avec le temps, ces militaires sont repartis. Et donc, actuellement, ce sont des villageois qui nous gardent, en fait. Le soir, à partir de 20h, il y a des villageois qui viennent en moto faire un tour pour voir si tout va bien. Si quelqu'un d'inconnu rôde par là, il le signale.
Des bonzes donc engagés dans la défense de l'environnement au péril de leur vie, ça se passe dans le nord de la Thaïlande. C'est donc l'un des aspects de ce bouddhisme engagé dont nous observons aujourd'hui dans tout un monde les manifestations. Retour maintenant avec vous Alain de Valpo en ville, à Chiang Mai, cette petite ville donc du nord de la Thaïlande. Là c'est l'engagement auprès de la santé, enfin dans le domaine sanitaire. Ça nous ramène en ville, Alain de Valpo, grâce à ce reportage que vous avez fait dans le nord de la Thaïlande, des moines donc cette fois qui s'occupent des gens séropositifs et atteints du sida.
Oui, la Thaïlande au milieu des années 1990 a été touchée de plein fouet par cette épidémie. À l'époque, les personnes séropositives étaient considérées comme des pestiférés et des temples à l'époque se sont ouverts pour accueillir ces personnes séropositives qui à l'époque mouraient. Aujourd'hui, la situation est complètement différentes. Les mentalités ont évolué, l'accès aux soins est possible, mais les bonzes continuent à œuvrer auprès des personnes vivant avec le VIH. Et dans le nord de la Thaïlande, il existe un réseau de temples dont le responsable est Phra Mahabum Chuai, à qui je demande en quoi consiste aujourd'hui l'action que les bonzes mènent auprès de ces personnes.
From the beginning, they give spiritual support to them by gather them in the temple and so that they can be together.
En premier lieu, il leur offre un soutien spirituel en accueillant ces personnes dans les temples où elles peuvent se regrouper, pratiquer la méditation pour calmer leurs esprits, pour comprendre ce qui arrive à leur vie.
After they understand the situation and the way, to lead their life. Next step is.
Après avoir fait le point, ils comprennent la manière de reconstruire leur vie. L'étape suivante consiste à les aider, à les former à une activité pour qu'ils puissent travailler et avoir plus de revenus pour faire vivre leur famille.
And if they are not able to work, then the third is to give, you know, material support to them.
S'ils ne sont pas capables de travailler, alors on peut leur donner un soutien matériel direct en leur fournissant de la nourriture, des vêtements ou tout ce dont ils ont besoin. Les bons sont comme des facteurs. Nous obtenons des soutiens extérieurs et nous les distribuons aux personnes séropositives.
And more than that, we the monks are also doing work in supporting those who are.
Mais plus encore, les bons aident aussi ceux qui sont affectés, comme les personnes âgées qui ont perdu leur fils ou leur fille à cause du SIDA.
Because of AIDS, and also to the orphaned.
Il y a aussi les orphelins, ceux qui ont perdu leur père, leur mère. Ils reçoivent des aides matérielles et un soutien spirituel.
Buddha himself, when he found a sick man,
Bouddha lui-même, quand il a rencontré un homme malade, il a personnellement nettoyé le corps de ce bonze malade. Changer ses habits
and give him medicine.
Et il lui a donné des médicaments.
So even Buddha also doing.
Donc même Bouddha a fait ce que nous faisons aujourd'hui.
Then what we are doing now. So helping those who are in suffering.
Aider ceux qui souffrent est un devoir des bouddhistes.
Le témoignage donc de Fra Ma Bun Chuai, ce bonze de Chiang Mai, témoignage recueilli en compagnie de Louis Gabaud, qui vit depuis très longtemps dans cette région, qui est chercheur, et qui lui d'ailleurs préfère à l'expression bouddhisme engagé plutôt l'expression ascétisme social.
Pourquoi ascétisme ? Parce que c'est un bouddhisme qui se fonde sur quelque chose qui est traditionnel dans le bouddhisme, à savoir l'ascétisme qui a pour but de limiter les désirs, et ascétisme social parce que c'est un ascétisme qui n'est, là encore, ne se contente pas d'être vécu sur le plan individuel mais d'être vécu sur le plan social. Et cet ascétisme social correspond à quelque chose qui devient aujourd'hui à la mode de par un tas de facteurs, le réchauffement, etc., un tas d'éléments qui font dire aux hommes que voilà, il faut arrêter de consommer à tort et à raison parce qu'on va dans le mur. Alors, sur le plan bouddhiste, c'est un ascétisme qui est conscient des problèmes du monde, conscient des problèmes de la société, et qui donc transfère, ou en tout cas traduit sur le plan social, quelque chose qui jusqu'à présent, ou traditionnellement, était plutôt réservé à l'individu, surtout dans le bouddhisme du petit véhicule.
Comment qualifier ces bouddhistes engagés ? Sur le plan religieux, ce sont des hérétiques, et sur un plan politique et social, des utopiques ?
Non, ce ne sont pas des hérétiques. Au plus, on les critique parce que, pour certains, ils veulent casser la société, ou ils veulent inventer une société qui n'est pas traditionnelle. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient hérétiques. Alors, qu'ils soient utopiques, d'une certaine manière, mais certains, comme celui que nous avons vu tout à l'heure, donc, bon, c'est sans doute un utopiste, mais c'est un utopiste très réaliste, vous avez pu le voir. Il ne veut pas... C'est un accompagnateur, c'est un passeur. Il veut faire avancer les gens à partir du niveau où ils sont. Il ne veut pas les tuer pour les améliorer, si vous voulez. Il les prend comme ils sont, et puis il veut les faire avancer. Ce qu'il veut, c'est insuffler spirituellement quelque chose aux gens pour qu'ils fassent un pas vers plus de libération par rapport aux soucis matériels. Et de ce point de vue-là, ils ne sont pas hérétiques du tout. Ils sont vraiment très bouddhistes, très, très radicalement bouddhistes.
Alors une précision qu'il faut donner à Alain de Valpeau à ce point de votre reportage, c'est que tout de même, en Thaïlande, les bouddhistes et les bonzes sont massivement quand même en faveur de l'autorité. Donc il s'agit de courants quand même un peu dissidents. Et on en a eu un bon exemple lors d'une polémique récente, c'est que les bonzes, là, sont venus manifester, mais non pas pour défendre la liberté, mais au contraire pour empêcher cette liberté de s'exprimer à la faveur d'une histoire de caricature interdite.
Et oui, et ça se passait en même moment qu'en Birmanie, les bonzes descendaient dans la rue pour réclamer plus de démocratie. En septembre 2007, une des plus importantes universités de Thaïlande a organisé une exposition d'art national. Un des tableaux exposés a été considéré comme une caricature par une partie du clergé bouddhiste qui est descendu dans la rue et qui a eu gain de cause, qui a fait retirer l'œuvre de l'exposition.
Alors ce qu'on voit sont des moines avec une sorte de bec crochu d'oiseau de proie autour d'un bol en train de mettre la main enfin dans le bien commun, dans le bol commun, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Comme des prédateurs.
Et évidemment, la communauté artistique, elle, a réagi. Et j'interroge Manit, qui est un photographe et qui explique son point de vue.
They have a group of monks that they call themselves that Assembly of the Buddhism.
Il existe un groupe de bonzes qui se prénomme Assemblée du Bouddhisme. Ils ont protesté contre l'exposition d'un tableau. Ils affirmaient que ce tableau insultait le bouddhisme thaï. Ils ont demandé à l'université qui organisait l'exposition de retirer ce tableau. Ce sont les mêmes qui avaient pris l'habitude de manifester lorsque s'élaborait la nouvelle constitution pour faire pression afin que le bouddhisme devienne la religion officielle de la nation. Ce que beaucoup refusent, car nous sommes une société démocratique et nous voulons une séparation de l'Église et de l'État.
Comment a réagi la communauté artistique face à ce cas de censure ?
Je peux dire que tous mes amis artistes ont pris position en faveur de l'artiste, car il s'agit de liberté d'expression en premier lieu. Deuxièmement, l'artiste lui-même s'est désolé que ces bonzes voient les choses ainsi. Car pour lui, c'était sa manière de protéger le bouddhisme dans lequel il croit. C'est une opinion différente. La communauté artistique a affirmé que nous vivons en société, que nous devons être tolérants, être ouverts à des opinions différentes.
Au même moment, dans le pays voisin, en Birmanie, il y avait des manifestations de bonzes en faveur de plus de démocratie dans ce pays. Ici, à Bangkok, en Thaïlande, y a-t-il eu des manifestations de soutien à ces bonzes ?
During the demonstration in Burma, in the last September,
pendant les manifestations en Birmanie en septembre dernier, un petit groupe de bonzes a pris fait et cause pour les bonzes birmans qui luttaient pour la démocratie. À l'opposé, en Thaïlande, la majorité des bonzes et de leurs adeptes protestaient contre ce tableau. Il voulait sa censure. C'est un contraste si on compare avec la Birmanie. Là-bas, les bonzes luttent pour la démocratie, ici pour la censure. Je trouve le bouddhisme thaïlandais très décevant. Quand je parle de cette situation, il est clair que les critiques des artistes visent le clergé bouddhiste et non pas le bouddhisme et son enseignement.
Après le témoignage de Manit, ce photographe thaïlandais, je reviens vers vous, Raphaël Liogier, puisque cette émission vise à comprendre ce qu'est ce grand courant du bouddhisme engagé à travers le monde. Alors on voit bien qu'en Thaïlande, ce bouddhisme engagé est extrêmement minoritaire, si l'on en croit ce qui vient d'être dit. On a parlé d'un petit groupe.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est pas tout à fait vrai.
C'est pas si minoritaire que
c'est
ça.
C'est pas si minoritaire que ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu moins engagés que d'autres. Ça, c'est tout le temps comme ça. Ça veut dire aussi que globalement, en Birmanie, on a aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on a des moines.
Ils ne sont pas tous descendus dans la rue.
Non, ils sont loin de là. Ils sont loin d'être tous descendus dans la rue. Mais il faut quand même dire que les moines qui étaient les plus visés en Birmanie comme étant des activistes ont trouvé refuge aussi en Thaïlande, en passant la frontière, dans des communautés monacales aussi. Donc il ne faut quand même pas exagérer. En Thaïlande, comme en Birmanie, parce que là, il faut resituer, je crois, les choses.
Tout à fait.
Il y a trois types de moines. Si vous voulez. Vous avez un bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme des villes, qui est un bouddhisme extrêmement dévotionnel. C'est un bouddhisme de pratique dévotionnelle, des individus qui vont à la pagode, qui font leur vie, qui se marient là, qui, etc. etc. Et des gens, c'est un bouddhisme, comment dire, vraiment de piété populaire, où on ne se préoccupe pas des textes. Et d'ailleurs, les moines eux-mêmes ne connaissent pas les textes, le plus souvent, dans ces ils récitent par cœur.
C'est un bouddhisme identitaire,
un petit peu bouddhisme
pour le pays.
Exactement. Il y a un deuxième type de bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme des forêts, qui se pratique surtout dans des monastères et qui est très spiritualiste. Hein, qui est très spiritualiste, avec des gens qui pratiquent la méditation toute la journée, extrêmement dure, une rigueur, un ascétisme non pas social. Et puis il y a un bouddhisme qui est politique, qui peut être issu du bouddhisme des villes et qui peut être issu du bouddhisme spiritualiste des campagnes et qui se retrouve sur un certain nombre d'idées. Voilà. On a ces trois, si vous voulez, on a ces trois orientations.
Et qui, lui, ce dernier bouddhisme, a plus tendance à établir des connexions avec le réseau mondial.
Et qui, lui, a tendance à établir des connexions avec le réseau mondial. Alors maintenant que j'ai été positif sur le bouddhisme, je peux vous dire aussi qu'il y a des tendances réactionnaires très fortes dans le bouddhisme. Et je risque de vous surprendre, mais il y a des tendances très fortes qui viennent aussi de Buddhadasa Bhikkhu. Parce que moi, j'ai lu quand même les discours de Buddhadasa Bhikkhu, les études qui ont été effectuées sur cette question. On parlait du sida, on parlait d'un certain nombre de choses. Dans le discours de Buddhadasa Bhikkhu et d'un certain nombre d'activistes qui ont interprété Buddhadasa Bhikkhu, le sida a pu être considéré dans une certaine extrême comme une souillure venant de l'Occident, comme si l'Occident considérait globalement la Thaïlande comme une maison de passe et en quelque sorte souillait son territoire, etc. Et il y a limite d'une politique bouddhiste des mœurs, retour à des mœurs plus pures, à un karma purifié, etc. Il y a possibilité aussi, dans le cadre du bouddhisme, y compris dans le discours de Buddhadasa Bhikkhu, à côté du côté socialisme, tout ce qu'on veut, etc., un jour de retour à des mœurs plus pures, à une sexualité qui ne soit pas souillée, à toutes ces choses-là qu'on retrouve chez nous dans la bouche de nos clercs, de nos prêtres habituels. Exactement. Ça, on le retrouve très fortement. Il y a aussi un nationalisme chez Buddhadasa Bhikkhu. Pas un nationalisme équivalent à celui qu'il remet en cause, évidemment, pas un nationalisme. Mais il y a aussi un très fort discours sur le retour à une Thaïlande enracinée dans sa tradition bouddhiste que l'Occident est venu détruire par le capitalisme, etc.
Alors, est-ce qu'en Thaïlande, le bouddhisme est religion d'État ? Ce qui est le cas en Birmanie.
Bien sûr, le bouddhisme est religion d'État depuis toujours, dans Thaïlande, pour ainsi dire. Donc
quels sont les autres pays dans le monde où le bouddhisme a ce statut de religion d'État ?
Alors, c'est ambigu parce que parfois le statut n'est pas déterminé officiellement, mais enfin, il est très présent.
Mais il est de fait.
Il y en a de fait, mais il y a des pays qui sont des pays officiellement bouddhistes, dans le politiquement bouddhiste. On a évidemment le Sri Lanka. En Birmanie, le bouddhisme est vraiment la religion dominante et complètement acceptée avec des moines qui sont officiellement reconnus par l'État.
Au Japon, qu'en est-il ?
Au Japon, ce n'est pas du tout le cas. Non. Au Japon, ça a été le cas. Ça a été le cas pendant une longue période du Japon où les monastères zen étaient, pour ainsi dire, les préfectures du pouvoir central. C'est-à-dire que quand le pouvoir central n'avait pas les moyens de s'offrir des préfectures dans des coins reculés, c'était le monastère zen qui
faisait fonction.
Qui fait fonction, exactement, exactement. Parce que le bouddhisme engagé, aussi, cet aspect politique dans le bouddhisme, n'a pas que des aspects positifs. Ce n'est pas seulement positif. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un bouddhisme engagé fasciste au Japon, puisque vous parlez du Japon, avec des moines ou des individus très engagés dans le bouddhisme, avec des moines qui faisaient des discours aux combattants suicidaires qui allaient se jeter sur les porte-avions américains en leur disant « Votre ego ne compte pas, ce qui compte, c'est le grand Japon, cette universalité. » La vacuité était, la vacuité qui est un concept très important dans le bouddhisme, était assimilée au grand Japon, et la manière de sauver le grand Japon, c'était de se jeter sur les porte-avions américains.
Alors attention à ces erreurs d'interprétation, disiez-vous, Raphaël Yogier, puisque apparemment les hippies dont on parle beaucoup en ce moment, à la faveur du renouveau de goût pour les années 60, se sont un peu trompés d'interprétation par rapport à ces moines que vous évoquiez.
C'est-à-dire qu'un des moines qui a eu le plus de succès, un des moines zen qui a eu le plus de succès pendant la Seconde Guerre mondiale pour inciter les gens à aller se suicider sur les porte-avions américains, étant même un de ceux qui a été à l'origine d'un grand mouvement bouddhiste qui a eu un fort succès chez les hippies dans les années 70, qui est le mouvement Sambo Kyodan aux États-Unis, qui a eu beaucoup de succès. Donc, c'est-à-dire
attention aux icônes.
Alors, il y a des mélanges des genres. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le bouddhisme engagé dans sa version internationaliste, environnementaliste, sociale, moi, je crois, est le fleuron, l'avant-garde d'une force religieuse qui joue à l'échelle de la planète, qui est en quelque sorte un contrepoids à l'échelle de la planète d'autres forces religieuses comme l'intégrisme ou l'intégrisme, pas seulement musulman, parce qu'on pense intégrisme, on pense musulman, mais toute une série d'intégrismes, et la troisième force religieuse qui, à mon sens, sont les mouvements néo-évangéliques très émotionnels, etc. Là, on a en fait trois forces, et le bouddhisme, lui, avec ses leaders, donc Bouddha Dasabhikkhu, mais maintenant qui n'est plus là pour...
qui reste l'inspirateur.
Voilà, avec Sulak, avec le Dalai Lama, sur lequel d'ailleurs je suis en train de finir un livre sur cette question, c'est-à-dire ces grands leaders, ces individus constituent, donnent une dynamique à un nouveau champ religieux, à l'échelle de la planète. Et le bouddhisme a toute sa place.
En rappelant qu'il faut lutter donc contre ce qu'on a pu appeler l'horreur économique, donc on réinstaure les valeurs, ne serait-ce que humanistes, même sans faire forcément référence au divin, et sans inféodation à un clergé quelconque ou à une idéologie étouffante. C'est ça la force. C'est qu'au fond, c'est un vaste champ de propositions qui est très ouvert. Chacun peut y projeter ce qu'il espère.
Alors là, ça nécessiterait un long débat, mais il y a l'interprétation intimiste et ouverte des Occidentaux qui pensent que globalement le bouddhisme c'est de la méditation, il n'y a pas de règles morales, alors on dit c'est une éthique, c'est sympathique, etc. Moi je suis de ceux qui ne disent pas ça. Je dis dans le bouddhisme, il y a des préceptes et des préceptes moraux extrêmement stricts, extrêmement précis, et il y a aussi de l'idéologie. Une idéologie qui prétend être anti-idéologique, quand même une idéologie, et qui est précise, qui a ses limites, et qui a sa cohérence interne, dans laquelle on ne peut pas tout mettre, à mon avis. Dans laquelle vraiment on ne peut pas tout mettre.
Et il y a un courant quand même qu'on retrouve dans le bouddhisme, et qui vient de Gandhi, qui est passé par Martin Luther King, qui a été quand même aussi un des inspirateurs de Bouddha Dasabhikkhu, je crois, c'est cette idée de non-violence.
Alors, cette idée de non-violence, au départ, effectivement, puisqu'on parle de Gandhi, elle n'est pas bouddhiste, elle est jaïne. Donc, Gandhi était jaïne. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur du bouddhisme, il y a un concept. Ce concept, c'est le concept de coproduction conditionnée. Pratyasamutpada, qui signifie que tout est conditionné, nous sommes conditionnés les uns avec les autres. Nous nous causons mutuellement sans pouvoir nous isoler. C'est ce que a permis à Bouddha Dasa et ensuite au Dalai Lama de constituer cette idée de ce concept d'interdépendance universelle. Et c'est de cette idée que découle l'idée d'environnement, de considérer l'environnement. Mais même sur ce point, il y a une confrontation entre les différents leaders, une confrontation douce, une confrontation pacifique, bien sûr, puisqu'ils sont bouddhistes, entre, par exemple, Thich Nhat Hanh et le Dalai Lama. Thich Nhat Hanh, lui, est dans une vision de l'interdépendance qui est radicale. C'est-à-dire que si on parlait d'écologie, on dirait que c'est de l'écologie profonde, la deep ecology. C'est-à-dire que nous sommes, les humains n'ont pas un droit supérieur à exister dans l'univers et sur cette planète, supérieur aux mouettes ou je ne sais quoi.
On est presque dans un système chamanique.
Enfin, vraiment, c'est-à-dire c'est une interdépendance totale. Ça a d'importantes conséquences. Ça veut dire que Thich Nhat Hanh n'est pas environnementaliste. Parce que l'environnementalisme, c'est de dire il faut protéger l'environnement, comme son nom l'indique, parce que c'est l'environnement de l'homme. Et donc, il faut faire attention parce qu'on va suffoquer. Thich Nhat Hanh nous dit, tant pis si on suffoque, l'important c'est... Voilà. Alors que quelqu'un comme le Dalai Lama serait plus dans l'écologie des vers ici, c'est-à-dire une écologie justement environnementaliste où il faut préserver l'environnement pour l'homme. Et déjà, il y a ces... Alors, les débats qui existent dans notre post-modernité mondialisée, mais sont présents à l'intérieur même du bouddhisme.
Merci Raphaël Liogier d'avoir été avec nous pour éclairer donc ce bouddhisme engagé. On pourra lire avec grand profit donc ce gros livre qui était paru en 2004, mais encore tout à fait d'actualité, qui s'appelle « Le bouddhisme mondialisé, une perspective sociologique sur la globalisation du religieux », paru aux éditions Ellipse. Vous nous parliez tout à l'heure donc de votre prochain livre « À la rencontre du Dalai Lama, vie, pensée et mythe d'un contemporain insolite », un livre à paraître le 22 février chez Flammarion, et puis beaucoup d'autres pistes de lecture et d'information que nous laissons sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, donc beaucoup de choses sur internet actuellement. Tout un monde dont la première partie se termine. Cette émission donc était organisée autour d'un reportage d'Alain Devalpo. À la technique se trouvait Véronique Amiot. À la réalisation, Anne de Pelchin. Tout un monde, chaque dimanche, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Une émission que vous pourrez retrouver donc sur le même site. Vous pourrez aussi trouver dans l'agenda, sur le bouton agenda, un certain nombre d'événements que nous vous recommandons. Deuxième partie de Tout un monde, avec les échos de la planète francophone. On reste donc dans le monde du bouddhisme. C'est un reportage de la radio suisse romande autour d'une moniale, Simone, devenue Jico.
Radio suisse romande.
C'est tellement beau que j'ose pas vous le dire. C'est beau aujourd'hui, beau demain, beau dans les Laurentides, beau demain, beau dans les cantons de l'Est, beau demain.
L'élevage et le commerce caravanier constituent, à n'en pas douter, le support économique de l'Adrar des Iforas.
C'était libre de Bruxelles d'approcher d'un peu plus près les civilisations précolombiennes de la Mésoamérique.
Aujourd'hui, comment aborder la question ethnique dans un contexte démocratique ?
Écho de la planète francophone. Poursuivons autour du bouddhisme avec le témoignage d'une femme en Suisse qui a consacré sa vie à la pratique du zen. Simone Wolf, devenue Jico, lumière de la compassion, est aujourd'hui la responsable des centres de zen Soto de la Chaux-de-Fonds et de Genève. Elle s'inscrit dans l'héritage de Tessen Teshimaru, un grand maître du bouddhisme zen qui a largement contribué à son essor en Europe dès les années 60. C'est un épisode d'une longue série consacrée à l'histoire et les pratiques du bouddhisme en Occident qu'avait réalisé Jean-Christophe Emery dans le cadre de l'émission « À vue d'esprit » de Catherine Erard et Michel Cocher à la radio suisse romande. On écoute Simone, devenue Jico.
J'avais lu des ouvrages de Maître Teshimaru, qui est le premier maître zen en Occident, qui a vraiment implanté le zen en Occident. Et en lisant ses livres, j'ai été très touchée par l'unité du corps et de l'esprit. Et c'était une époque, évidemment, où je ne me sentais pas vraiment le corps et l'esprit en unité. ni dans mes actions. Il y avait toujours une différence entre ma pensée, mon acte. Donc j'étais très sensible à ça. Et j'ai décidé de rencontrer ce maître. Donc je suis allée à Paris, où il avait un dojo, à rue Pernetti.
Donc un dojo, juste pour préciser?
Un dojo, c'est le lieu où on pratique le zen. Et puis je pense que le mot zen me plaisait bien. Je ne savais pas exactement ce qu'il recouvrait, mais voilà. Donc je suis allée au dojo, je me suis assise en zazen, et pour moi c'était vraiment comme rentrer à la maison, et j'ai continué cette pratique.
Vous aviez un arrière-plan religieux au préalable, auparavant?
Non, pas du tout, mais je pense quand même que l'homme a un instinct spirituel ou religieux, pas seulement un instinct animal ou... intéressé par la matérialité ou par les désirs. Il y a une autre demande de l'esprit. Et je pense que c'est ce qui conditionne toute recherche d'une voie spirituelle ou d'une démarche philosophique ou d'une recherche.
Alors donc, vous vous rendez à Paris, vous découvrez l'enseignement de ce maître. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos premières impressions?
Mon premier zazen, oui, bien sûr, très exactement. J'ai été très touchée et effectivement, c'était découvrir l'unité du corps et de l'esprit. C'était aussi découvrir à quel point j'étais crispée, à quel point il faut être courageux pour simplement s'asseoir tranquillement. Alors ça va les 5 premières minutes, et puis au bout de 5 minutes, on commence à avoir mal partout. Et on peut observer son illusion. Et doucement se calmer, et dans la répétition, un lâcher-prise s'opère.
Donc, au fond, c'est au travers de cette posture zazen que vous avez pris conscience de certains éléments.
Oui, bien sûr. Zazen, c'est s'observer soi-même. Et comme le disait un maître du XIIIe siècle, maître Dogen, s'observer soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être en unité avec toutes les existences. Ça veut dire que ce n'est pas une observation avec la raison qui résonne. Mais c'est simplement abandonner toutes ces conceptions, ces catégories, ces idées, ces sentiments, ces émotions, les laisser passer, pas coaguler. Mes préoccupations de l'époque, c'était l'impermanence. J'avais compris le caractère impermanent de toutes les existences, pas compris d'une manière intellectuelle, mais vécu vraiment très profondément. Et voilà, c'est un point fondamental de l'enseignement du Bouddha, l'impermanence. Toutes choses sont impermanentes.
C'est-à-dire qu'au fond, vous avez fait l'expérience au travers de votre enfance, de votre éducation, de votre... peut-être, c'est quoi? C'est de la fragilité? C'est de la souffrance? Qu'est-ce que c'est?
Oui, quand on le vit très directement par la mort de proches, c'est de la souffrance. Et c'est pas seulement une idée, c'est vécu. C'est une expérience directe. Alors, oui, c'est la souffrance, la première noble vérité du Bouddha. Il y a souffrance, il y a mal-être. La deuxième vérité, s'il y a souffrance, il y a cessation de la souffrance. La troisième noble vérité, il y a un bien-être, une joie.
Pour vous, ces questions-là, aujourd'hui, vous diriez que c'est ce qui vous a mis en route ?
Ça a très fortement contribué, certainement. Mais est-ce la seule raison? Je ne peux pas le dire. Je crois qu'il y a beaucoup de portes. Les miennes ont été celles-là. Je ne peux pas dire que si je n'avais pas vécu ces phénomènes, je n'aurais pas pratiqué le zen. Peut-être que oui. Qui peut dire ça?
Mais en l'occurrence, bon, c'est un paramètre, peut-être parmi d'autres, mais c'est un paramètre. En arrivant à Paris, vous n'aviez donc, au fond, pas de proches, pas de famille qui restait à l'eau chaude fond.
Oh, disons que j'avais pas une famille pour me dire ne fais pas ça, va plutôt chez les catholiques ou voilà, j'étais libre de ce genre de, je veux pas dire d'attache parce que je crois que j'étais très attachée aux absents.
Mais vous aviez cette disponibilité pour rester immédiatement à Paris.
Voilà, j'avais cette pleine disponibilité.
Quand vous êtes parti sur Paris, vous aviez l'intention de vous établir à Paris directement? Comment ça s'est passé?
Non, je crois que j'ai été d'une manière tout à fait spontanée, naïve. Je voulais rencontrer ce maître zen. Je me rendais compte que pour toute pratique, on a besoin d'un maître. Et voilà, je voulais rencontrer ce maître-là.
Mais vous aviez déjà dans l'idée de vous consacrer, j'ai envie de dire entièrement, à cette pratique?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais je, C'est un peu inexplicable. Hein. C'était comme ça à l'époque. Je voulais pratiquer zazen. Et donc, il fallait que je rencontre un maître.
Et alors, vous avez pu immédiatement, en arrivant auprès d'Eshimaru, vous associer à son groupe, à son dojo?
Eh bien, j'ai fait comme tout le monde. J'ai payé ma cotisation de zazen et je suis allée au dojo. C'est très simple. Ça se fait toujours comme ça. Et puis, doucement, eh bien, on s'apparente au groupe, on vit avec le groupe. La pratique du zen, quand on est sur son zafu, on est très seul, mais seul avec tout le monde, avec les autres pratiquants. Hein, c'est tourner le regard à l'intérieur. Et puis, il y a d'autres gens qui ont la même recherche, donc qui sont aussi en zazen. C'est ce qu'on appelle une sangha, ou les amis de bien, les amis de pratique. Alors, c'est une grande aide.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez retrouvé une sorte de famille?
Une famille spirituelle, oui. Une famille dans le sens affective. Non, c'est pas ce genre de lien, une sangha. C'est pas ce genre de lien qu'on noue avec une communauté spirituelle. Les amis de bien nous aident à pratiquer dans les moments où on peut avoir des doutes. Mais c'est pas des liens affectifs comme on peut partager dans une famille.
Mais vous viviez alors pas dans une communauté?
Non, le dojo de Paris était un dojo et puis chacun avait son appartement autour du dojo généralement. Et là,
vous vous êtes assez rapidement lancé de manière très, très intense dans la pratique.
Mais oui, puisque j'y allais tous les matins, j'y allais même parfois le soir et puis je pratiquais ce qu'on appelle les séchines. C'est les séchines. Séchines, ça veut dire toucher l'esprit. Ce sont des moments où, pendant 2 jours et demi, une semaine ou 2 mois en été, on pratique zazen intensément. Ça veut dire 4 fois par jour et puis on vit dans le rythme du temple ou du monastère. Ça veut dire que la concentration, elle est constante. Dans chaque geste que l'on fait, dans chaque action, tout devient la pratique du zen.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de consacrer votre vie à cette pratique?
Mais ça s'est fait très naturellement. Je n'ai pas eu l'impression de prendre une décision. Maintenant, je vais consacrer ma vie. Il n'y aura plus que ça dans ma vie. C'est tout à fait naturellement que la voie du Bouddha, la pratique de zazen, est devenue la source de ma vie, revenir à la source.
Au fond, est-ce que vous avez immédiatement trouvé dans cette pratique avec ce maître quelque chose qui vous a contenté, je ne sais pas comment le dire autrement, ou est-ce que vous avez peut-être papillonné, cherché d'autres groupes, vous intéressé à d'autres formes de bouddhisme?
Eh bien non, pas du tout. Je suis tout de suite restée là et je n'ai jamais essayé d'aller voir dans d'autres traditions. Très vite, j'ai compris que le zen était complètement la voie de Bouddha et qu'il y avait différentes écoles qui ont des parfums différents. Mais celui du zen était mon parfum, est mon parfum. Peut-être que j'étais touchée aussi par l'art, la simplicité des jardins zen, ou cette extrême simplicité, cette voie du dépouillement. Et quand on est assis en zazen, on vit ce dépouillement.
Vous avez plus tard été consacré moine. Ça s'est passé quand?
J'ai assez rapidement demandé l'ordination. Il y a 2 ordinations dans le zen. Une première ordination qu'on appelle l'ordination de Bodhisattva, qui est la remise des préceptes. Ensuite, j'ai demandé à Maître Deshimaru l'ordination de nonne. Quand j'ai senti que voilà, c'était cette vie-là qui me correspondait le plus.
Vous êtes resté combien de temps, Simone Wolf, à Paris?
Eh bien écoutez, moi j'ai commencé en 78, donc voilà, je suis partie en 82, à la mort de mon maître, et je suis retournée à la Chaux-de-Fonds. Je ne savais pas trop où aller, donc je me suis dit, bon, la Chaux-de-Fonds, voilà, c'est la ville où j'ai grandi, et j'ai eu envie de partager cette pratique avec les gens de cette ville. Et j'ai commencé par faire un groupe de zazen, qui est devenu aujourd'hui un centre zen, où une 20aine de personnes viennent pratiquer très régulièrement le matin et le soir.
Vous avez aussi fait des voyages en Asie pour aller pratiquer, peut-être dans des pays d'où le bouddhisme est parti ?
Non, j'ai voyagé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai fait un voyage en Inde pour faire le voyage sur les traces du Bouddha, donc le lieu de l'éveil, Bodh Gaya, mais je n'ai pas pratiqué là-bas. Et puis je suis allée beaucoup plus tard au Japon, lorsque j'ai reçu la transmission de Maître Okamoto, donc la transmission du Dharma. Et puis j'ai pratiqué un mois dans un temple au Japon à la suite de ça.
Vous avez reçu donc une transmission, c'était quoi, en 2004? Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce Dharma que vous avez reçu en 2004?
Dans la tradition du Zen Soto, la transmission est une chose très importante, c'est être inscrite dans la lignée des Bouddhas et des patriarches. Donc c'est une lignée ininterrompue depuis Bouddha, de tous les patriarches indiens, chinois, japonais.
Mais comment ça se passe? C'est vous qui en faites la demande de cette transmission? Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, il faut bien sûr avoir des gens qui se reconnaissent comme étant vos disciples ou vos étudiants et qui vous demandent un jour l'ordination de moine. Et alors, à ce moment-là, il faut à son tour demander.
Et alors, vous vous êtes adressé à...
À un maître japonais qui s'appelle Yuko Okamoto, qui était un ami de maître Deshimaru, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer au temple zen La Gendronnière, et que j'ai eu l'occasion de revoir, et voilà, il a accepté.
Aujourd'hui, vous vivez une vie de nonne. On a un peu l'image du moine qui est plutôt dans une logique de renoncement. Est-ce que c'est un mot que vous acceptez?
Mais c'est un mot... renoncer à mon égoïsme, bien sûr que j'y renonce. Ou en tout cas, je tends vers ça. Alors, c'est jamais achevé. Mais je suis toujours confrontée à tous mes désirs, à toutes mes illusions. Et c'est bien comme ça. Il n'y a pas une autre réalité que la réalité. Il n'y a pas un autre monde que ce monde. Alors, ce monde, on le connaît. On est confronté toujours à toutes les choses, à tous les phénomènes. Pour un pratiquant, c'est vivre aussi en accord avec la voie de Bouddha, en accord avec les préceptes du bouddhisme. Naturellement, quand on pratique, certaines choses s'éliminent.
Mais vous êtes arrivé, par exemple, de faire des écarts par rapport à ces préceptes, comme vous dites?
Mais bien évidemment. Alors, la notion de repentance dans le bouddhisme est très importante dans la voie de Bouddha. Savoir reconnaître son erreur. Et tout de suite d'abandonner, de se corriger, pas de culpabiliser, de ressasser.
Vous pourriez me donner des exemples de ces erreurs?
Écoutez, il y a 10 préceptes quand on reçoit l'ordination qui reviennent tout le temps. Et ces 10 préceptes qu'on retrouve un peu dans toutes les traditions religieuses. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, s'observer. Qu'est-ce que c'est ne pas mentir? Ne pas mentir à soi-même, ne pas tricher avec soi-même. Oh, raté. Hein? Mais c'est pas grave. On tombe, on se relève et on continue.
Est-ce que cette vie de moine, elle impose sur vous, à part le fait de pratiquer, mais d'autres types de contraintes?
Non, pas du tout. Aucune contrainte. C'est la parfaite liberté. Alors, il y a eu un peu une confusion, peut-être dans les années 68, où le zen, c'est la liberté, mais ce n'est pas l'esprit libertaire de la Beat Generation. C'est la véritable liberté. Pas d'attachement, pas de dépendance.
Alors j'en viens peut-être à Simone Wolf, à un aspect peut-être un peu plus contemporain de la pratique du zazen. Qui sont les personnes aujourd'hui qui s'intéressent à cette pratique?
Il n'y a pas une catégorie de personnes qui s'intéressent à cette pratique. Toute personne qui a une sensibilité ou une demande spirituelle ou une insatisfaction, qui cherche quelque chose, entre dans un dojo et s'intéresse au zen.
Est-ce qu'on peut, au fond, pratiquer comme on ferait, je sais pas, un instrument de musique, qu'on peut faire à des degrés divers? On peut s'impliquer très fortement ou au contraire, on peut pratiquer une fois de temps en temps?
Non, il y a des gens qui pratiquent de temps en temps. Chacun trouve le rythme à sa pratique. Mais bien sûr, je crois qu'assez rapidement les gens comprennent que Zazen, c'est pas une technique de bien-être, que c'est beaucoup plus qu'une technique de bien-être. C'est la pratique religieuse du bouddhisme, c'est la posture d'éveil, c'est s'asseoir et tout abandonner, abandonner l'égoïsme. Donc, abandonner également l'ego qui se manifeste et puis dit « je veux du bien-être, je veux être mieux, je veux être mieux ». Voilà, quand on est assis en zazen, c'est pas le propos. On est très bien tel qu'on est et on abandonne toute cette envie d'attraper quelque chose.
Qu'est-ce que ça implique de pratiquer le zen une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines seulement?
Mais ça, ce serait seulement obi-zen, comme une petite couche de beurre en plus sur la tartine. Quand on touche le cœur de la pratique, c'est revenir à sa véritable nature. C'est pas une petite chose qu'on rajoute à sa vie, c'est revenir à la source de sa véritable nature.
On peut le faire uniquement si on pratique de manière intense, intensive?
Mais on le comprend avec le corps, pas avec le mental, avec le corps. Il faut en faire l'expérience. Le zen, c'est l'expérience directe.
Mais c'est une expérience qu'on peut faire une fois de temps en temps, comme ça, comme on fait l'expérience de partir en vacances pour se faire du bien et se changer les idées.
Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est ça. Pas pour un moine ou une nonne.
Alors pour vous personnellement, on imagine effectivement que vous ayez investi beaucoup, enfin, votre existence dans cette pratique-là. Mais pour les gens qui viennent ici, ça ne vous dérange pas du tout qu'il y ait des gens qui le pratiquent comme ça une fois de temps en temps?
Mais les gens comprennent que c'est pas seulement... que c'est vivre selon ce qu'on appelle l'idéal du Bouddha. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les valeurs d'un enseignement.
On peut avoir ces valeurs sans forcément pratiquer la posture?
Ah, certainement.
Donc quel est le bénéfice de la posture?
La posture, c'est l'éveil. C'est de réaliser qu'on est tous des éveillés. C'est s'asseoir dans l'éveil, tranquillement. C'est très difficile de s'asseoir tranquillement. On se met assis, puis on se rend compte qu'on est vraiment un peu tordu, un peu crispé, que l'équilibre, il faut le recréer sans cesse. Il faut toujours revenir à sa respiration. Laissez le vivant s'exprimer. Vous n'êtes jamais maître du vivant en vous-même. Voilà. Mais touchez le vivant.
Donc les gens qui viennent et qui pratiquent sont des gens qui, au fond, adoptent une pratique extrêmement régulière de la posture?
Souvent, oui. Très souvent.
Et quel besoin y a-t-il de le faire en groupe?
Oh ben, vous savez, tout seul, c'est comme si on met juste une bûche dans sa cheminée. Ça fait un petit feu. Puis quand il y a plusieurs personnes, ça fait un beau feu. Alors, c'est plus facile de pratiquer en groupe. Tout seul, 5-10 minutes après, on commence à bouger. Et puis aussi, on ne voit pas du tout, la posture qu'on a. Surtout au début, c'est très important d'être aidé. Parfois, on a l'impression d'être très droit, on penche complètement à droite, ou le front part en avant, ou on ressasse, ou on rêve. Alors, en groupe, avec un enseignant, on peut plus facilement se corriger.
Mais ça vous semble peut-être à vous naturel, entre guillemets, mais ça prend un temps considérable, non?
Pas forcément. Il y a des gens qui comprennent très rapidement, d'autres un peu moins. Certains comprennent jamais, peut-être. Je ne sais pas.
Que recherchent exactement les gens qui pratiquent ici le zen?
Mais chacun aspire à pouvoir trouver une immobilité ou une paix ou une impassibilité qui va faire qu'on peut traverser tous les phénomènes douloureux ou joyeux sans en être trop dépendant, sans être ballotté par eux ou trop malmené. Retrouver, recréer un équilibre, c'est ce qu'on fait pendant Zazen, c'est recréer d'instant en instant l'équilibre de sa posture et au travers de l'attention juste. Alors, dans l'immobilité, quelque chose se corrige ou la posture se corrige d'elle-même. Il y a aussi un enseignement qui est donné, les gens comprennent les valeurs du bouddhisme, la tolérance, le don, la compassion, et que toute la vie devient le véhicule de ces valeurs-là. Hein, c'est pas spécial, Zazen, c'est pas un petit moment, et puis après on oublie. C'est pas séparé de la vie de chacun. C'est dans ce sens-là que c'est pas du tout une gymnastique ou une technique de bien-être. Donc forcément que cette pratique va influencer toute la vie du pratiquant.
Mais est-ce qu'on n'est pas finalement à la poursuite d'un éveil qu'on n'atteint jamais vraiment ?
Non, parce que la posture elle-même est la posture d'éveil. C'est se rendre compte qu'on est tous des éveillés. Donc à ce moment-là, il n'y a pas cette poursuite de l'éveil. S'asseoir, c'est s'asseoir dans l'éveil. Et c'est vraiment laisser se diluer toutes ces vieilles habitudes. Et on se rend compte que si on reste coagulé dans une dimension de l'ego, c'est cela même qui crée la souffrance. La souffrance, c'est rester coagulé dans l'ego.
Les gens qui viennent ici pour pratiquer, vous les voyez changer d'une semaine à l'autre ?
Mais oui, on peut voir ça. C'est comme quelqu'un qui arrive très sale et qui passe sous la douche. Il sort de la douche, on voit. Il sent bon, tout ça. Quand on fait zazen, les visages se tranquillisent, les yeux deviennent plus clairs. Il y a une joie qui se manifeste. C'est la joie de la pratique.
Et dans les trajectoires individuelles des personnes ?
Oh, ça, c'est chacun qui peut répondre.
Mais vous avez des gens qui viennent vers vous et qui vous disent « Depuis que je pratique, j'ai pris telle et telle décision, j'ai changé d'orientation, de cap ?»
Oh oui, les gens se sentent beaucoup mieux, généralement, ils sont plus heureux, ils sont plus concentrés, plus présents, c'est des vies. La caractéristique, c'est la joie, retrouver la joie, revenir à la joie.
Peut-être encore en guise de conclusion, Simone Wolf, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du bouddhisme en Occident ?
Je crois que c'est devenu un véritable phénomène de société. Il y a des dojos dans chaque ville, il y a des lieux de pratique dans chaque ville, et ça montre à quel point les gens recherchent quelque chose. Et bien évidemment, c'est une religion sans Dieu. Pour beaucoup, c'est magnifique.
Pourquoi ?
Peut-être parce qu'on est à une époque aussi de la laïcité et que les gens ont changé par rapport à une éducation chrétienne où ils se sont sentis étouffés peut-être par les dogmes de l'Église. Les gens n'ont plus envie de dogmes. Alors le bouddhisme, c'est pas un dogme. Il y a bien sûr une doctrine, il y a des enseignements, mais on peut les expérimenter directement. Hein, Bouddha a toujours enseigné... Faites-en l'expérience. Le zen, c'est l'expérience directe dans les toutes petites choses, dans tous ces petits riens qui font la vie. Toutes les petites choses sont sacrées. Il n'y a pas besoin de dogme pour le sacré.
Simone Wolf était à votre micro, Jean-Christophe. Simone Wolf, on le rappelle, qui est responsable des centres zen de la Chaux-de-Fonds et de Genève. Alors, pour conclure, enfin, on a toutes sortes de questions, mais notamment une qu'on a envie de vous poser. Le bouddhisme, il n'y a pas de dogme, c'est très agréable, d'une certaine manière.
Oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des dogmes qui sont construits de manière peut-être massive, qui se réfèrent à une révélation. Mais il y a quand même ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant normal. Naturel. Il y a une sorte d'ordre naturel à respecter. En somme, quand on dit norme, on dit ordre social et puis ordre moral. On n'est quand même pas très très loin d'un dogme.
Oui, parce que dans les sociétés dites bouddhistes, on n'est pas super progressiste a priori. On a plutôt l'impression de sociétés assez traditionnelles qui sont sous une chape de plomb. Est-ce qu'elle est religieuse ? Je ne sais pas.
Alors, bon, chape de plomb, oui et non. C'est-à-dire que il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. La culture, la religion. Et donc, au fond, on est dans une compréhension de l'être humain dans son environnement assez différente quand même de celle qu'on connaît ici.
Alors on a toute cette semaine parlé qualitatif, un mot sur le quantitatif. Beaucoup d'occidentaux se convertissent au bouddhisme, on le sait.
Alors il y a eu une grande vague dans les années 60 qui a vraiment été en rapport avec toute la génération des beatniks qui se sont intéressés à l'Asie de manière assez large. Et puis ce premier mouvement est retombé et il y a un deuxième mouvement qui est peut-être plus une lame de fond qui augmente progressivement. Il y a des centres zen et d'autres méditations. Il y a des soto, donc ces centres de méditation un peu dans toutes les villes qui progressent lentement, gentiment dans l'Occident.
Simone devenue Jiko, c'était le cinquième et dernier épisode de la série « Contre le Mac Bouddha » par Jean-Christophe Emery dans son émission « À vue d'esprit », celle aussi de Catherine Erard et Michel Cocher. Et nous étions en compagnie donc de Simone Wolf, qui est responsable des centres de Zen Soto de la Chaux-de-Fonds et de Genève. C'était un programme de la chaîne Espace 2 de Radio Suisse Romande et qui datait du 23 février 2007.
Merci Anne de Giaferi, rendez-vous dimanche prochain pour les échos de la planète francophone à 16h. Sur France Culture, le voyage continue. Nous sommes en compagnie de Caroline Bourgine.